Balado Saint-Lô vous présente Atypique, un balado orientant, mettant en vedette des membres de notre communauté ayant des parcours inspirants. Bonne écoute!
Bonjour, ici Sylvie Gaudreau pour un autre épisode de notre balado Atypique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Madame Joëlle Morosoli. Madame Morosoli est une artiste professionnelle et enseignante en art visuel au Cégep Saint-Laurent. Alors, bonjour Joëlle.
Bonjour Sylvie, c'est un plaisir d'être ici.
Bien, c'est ça. J'aimerais d'abord te remercier pour ton volontariat, d'avoir accepté notre invitation pour aider les étudiants. En fait, si on se resitue un peu dans notre balado, on va voir avec toi un peu ta carrière, comment ça s'est déroulé, comment tu as fait tes choix, et tout ça dans le but de donner un beau modèle professionnel à nos jeunes. Alors, toi, Joëlle, tu es née en France et tu es arrivée à l'âge de 10 ans au Québec. Donc, je présume que tu as fait tes études collégiales, si on part du début, dans un cégep au Québec. Est-ce que c'est ça?
J'étais à la ville de Québec et donc j'ai fait un double DEC. Donc, à l'époque, c'était assez rare. Et puis, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que j'avais d'une part des intérêts pour les arts visuels, mais également pour l'écriture. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un DEC qui va être en philo. Donc, philo pour pouvoir justement développer un peu la pensée, développer l'écriture également. Mais je voulais évidemment faire également un DEC en art visuel. Et donc, je l'ai fait au Cégep de Sainte-Foy à Québec.
Oui.
Et puis, donc, c'est comme ça que j'ai essayé de faire ces deux niveaux-là d'intérêt. Par la suite, ben, je suis allée à l'Université Laval en art visuel. Et donc, j'ai eu mon bac à l'Université Laval. Et puis, donc, c'est là que j'ai découvert un peu toutes les possibilités qui étaient intéressantes. Et entre autres, j'ai rencontré un prof qui faisait quelque chose de singulier, qui s'appelle Ulysse Comtois, qui a été un prix Paul-Émile Bordua et qui s'intéressait au mouvement. Et donc, il y avait un cours qui était au niveau du cursus du bac, qui était le mouvement. Donc, la mécanique, il y avait un atelier de mécanique, il y avait tours, fraiseuses, enfin, tout y était. Et lui, il nous demandait de faire des genres de mécanismes en bois ou en métal, peu importe. Et tout d'un coup, moi, j'ai été fascinée par l'idée du mouvement. Ce n'était pas la mécanique qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était comment rendre l'émotion à travers du mouvement et qu'est-ce que le mouvement allait chercher de complètement singulier que le statique ne donnait pas. Et donc, je me suis investie là-dedans. Et puis, comme j'avais la chance d'être avec un compagnon, j'arrive à l'appartement, petit appartement tout petit. Puis, je vais dire, ah ben là, moi, j'ai des tas d'idées pour le mouvement, mais moi, je ne sais rien faire là-dedans, je ne peux rien faire. Dire, ah ben moi, j'aime ça, faire du mouvement, les mécaniques, j'aime ça. Fais tes idées, moi, je vais faire ton mécanisme.
Oui.
Puis donc, c'est parti comme ça, la collaboration qui dure encore actuellement. Donc, on a eu une collaboration vraiment dès le début qui s'est faite. Et ben, à l'université, j'ai terminé mon université telle quelle. J'ai fait une pause uniquement en art, donc où je voulais essayer de m'investir dans le domaine des arts et l'écriture. Donc, c'est là que j'ai publié un recueil de poèmes. Après ça, j'ai publié mon premier roman parce que, bon, c'était deux volets qui m'intéressaient beaucoup.
Oui, ta passion pour la littérature était là encore.
Elle toujours. Demeurait. Oui, puis oui. Elle est encore présente.
Oui.
Je ne dis pas que j'ai dit ma dernière ligne.
D'accord.
Donc c'est vraiment deux volets qui m'intéressaient. Et donc, en parallèle, bon, ben, je faisais des expositions, j'ai fait également de l'intégration de l'art à l'architecture. Donc, toujours en partenariat avec Rolf, qui est mon compagnon encore actuellement. Et à un moment donné, ben, je me suis dit, non, premièrement, financièrement, c'était un peu chaotique. Là, c'était difficile, même si j'avais des intégrations à l'architecture, où il y avait un bon moyen d'aller chercher des montants d'argent, mais manquer de régularité. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ma mère a été dans l'enseignement, a été directrice de polyvalente, de trucs comme ça. Donc, forcément, elle m'a un peu insufflé ce goût de l'enseignement. Et puis, je me suis dit, bon, ben d'accord. Donc, j'ai essayé, j'ai commencé par faire d'abord le secondaire. Donc, j'étais à Gatineau. Et oui. puis, j'ai fait donc une multitude de polyvalentes de l'une à l'autre. Mais pendant six ans, j'ai fait le travail au secondaire. Et le côté disciplinaire vraiment me déplaisait profondément. J'ai trouvé que c'était très, très difficile et que j'avais pas la capacité d'autorité de m'imposer à ce niveau-là. Donc, j'ai laissé tomber, d'autant plus que mon compagnon venait de trouver un emploi à Montréal. Et donc, on a déménagé. Donc, j'ai perdu mon emploi qui était au niveau du secondaire. Et là, j'ai comme travaillé un peu plus dans le domaine des arts. Et après ça, je me suis dit, je vais essayer au niveau du cégep. Mmh. Et puis, j'ai fait ma première entrevue au cégep de Saint-Laurent et je l'ai eue, bingo! Fait que j'étais vraiment très contente.
Wow.
Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à enseigner un cours. Oui. Et puis, ça a pris plusieurs années avant de devenir permanente. Mais ça a toujours été un grand plaisir d'enseigner au cégep de Saint-Laurent. Puis, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est un niveau des étudiants qui est vraiment superbe parce que ce sont des étudiants qui ont le goût de faire des choses, qui sont impliqués dans le domaine des arts et qui n'ont pas encore le côté peut-être plus, comment je pourrais dire, enfin, à l'université, c'est différent. Et la relation, souvent, ce sont des personnes qui ont déjà une carrière aussi à l'université, qui reviennent à l'université. Et donc, ça fait peut-être des relations peut-être plus conflictuelles. Tandis qu'on peut dire qu'au cégep, il n'y a pas ce côté-là. Il y a une fraîcheur qui est vraiment très, très agréable. Et enseigner, c'est apprendre. Oui. Donc, c'est tout gagnant pour tout le monde. Donc,
exactement.
C'est super.
Donc, tu parles de tes valeurs, dans le fond. Hein? Qu'est-ce que tu trouves le plus important d'avoir comme qualité pour enseigner au collégial? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut devenir professeur au cégep? Qu'est-ce que ça prend? À quoi il faut penser avant de s'engager dans une carrière comme ça?
Je pense qu'il faut avoir une certaine passion. T'sais, je pense que si un prof qui n'est pas passionné par sa matière, disons qu'il ne pourra jamais la retransmettre d'une manière valable.
Oui.
Donc, il faut vraiment aimer sa passion, il faut aimer son travail. Puis je crois qu'avoir une carrière en parallèle permet de le développer plus cette passion et de la retransmettre. Donc, avoir peut-être une certaine pratique artistique avant de s'engager en tant que prof, ça peut être un élément intéressant, d'autant plus que on est jeune, on n'a pas encore besoin de s'établir, il n'y a pas encore la retraite, il n'y a pas encore tout ça qui rentre en ligne de compte.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est comme le temps de voyager, de s'inspirer de l'extérieur, de produire, d'aller dans sa propre expressivité, donc aller chercher sa singularité, son identité, et petit à petit, s'engager au niveau de l'enseignement. Parce que ce qui est bien dans l'enseignement, comme je disais, c'est qu'en préparant nos cours, nécessairement, on apprend des choses qu'on avait soit oubliées, soit qu'on n'avait pas apprises. Et c'est ce qui fait que l'enseignement est tellement intéressant pour un prof, c'est qu'il y a cette relation avec l'étudiant qui est vraiment de qualité et intéressante. Mm-hmm. Mais il y a également la relation avec la pédagogie, donc qui nous force à développer des habiletés relationnel que l'on n'avait peut-être pas au départ. Et donc, ça, c'est intéressant. Puis, des cognitives également. C'est-à-dire qu'on apprend des choses qu'on n'a pas apprises ou qu'on devrait apprendre ou qu'il faut développer. Et tout ça fait que c'est quelque chose d'intéressant. C'est vraiment pas quelque chose d'ennuyant d'enseigner, même si il y a quand même un côté répétitif, c'est-à-dire qu'on donne des fois les mêmes cours, mais on peut toujours donner en art des projets différents.
Oui.
Et c'est ce qui fait que si la théorie demeure, les projets attenant à cette théorie peuvent changer constamment.
Absolument.
Et donc, c'est intéressant et pour les étudiants et pour le prof. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant.
Exact. Il y a beaucoup de place pour la créativité. Il y a beaucoup de place aussi pour mettre son cœur, hein? Étant donné qu'avec les jeunes, ça change tout le temps, ça nous garde le cœur jeune.
Oui, oui. Nous, on vieillit tout le temps, puis eux, ils ont toujours 18-20 ans. C'est
exactement. Et comment, Joël, on arrive à conjuguer une carrière d'artiste professionnel et une carrière d'enseignant en même temps? Est-ce que c'est difficile pour toi ou ça va quand même bien de conjuguer les deux?
C'est très difficile.
Oui.
Parce que c'est énormément de travail. Donc, c'est 11 mois de travail par année, puis 7 jours de travail par semaine. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail.
Oui.
Moi, j'ai énormément de chance parce que comme je travaille avec mon compagnon, il y a comme un partage des tâches qui se fait. Donc, ça me permet pas d'en faire moins, mais d'en avoir beaucoup plus dans le CV. C'est dans ce sens-là,
exact.
À deux. Mais c'est quand même très exigeant. Je pense que c'est clair. Moi, je dis que c'est avoir comme deux professions.
Mm-hmm.
Et puis donc, quand on a des enfants, là, c'est trois professions, là, c'est trop. Là.
Tout à fait.
Mais je crois qu'il y a aussi une manière. Donc, moi, c'est parce que je suis un petit peu plus excessive peut-être que d'autres profs, là, si on peut dire dans ce sens-là. Mais je pense qu'on peut très bien temporiser avec une carrière d'artiste qui est relativement très intéressante, mais peut-être moins boulimique, là, si on peut dire,
oui.
Et qui permet donc d'avoir vraiment, je sais pas, une exposition tous les 3 ans, par exemple, où on a le temps de vraiment maturer son travail et de travailler en même temps au cégep et de prendre des vacances et tout ça. Donc, il y a toutes sortes de carrières, hein. Je pense qu'il y a toutes sortes de manières de fonctionner. Donc, moi, je fonctionne comme ça,
voilà.
Mais il y a des tas de profs qui ont une très belle carrière, mais beaucoup plus relaxe, beaucoup plus, disons, distancée, si on peut dire, et qui, au niveau de l'enseignement, donc, a les mêmes qualités et tout ça. Donc, ça dépend de la personnalité du prof et de l'artiste, en fin de compte.
Oui. En fait, c'est un choix que tu fais de pratiquer aussi comme artiste professionnel.
Tout à fait.
Oui. Dis-moi, Joël, ça semble tellement facile pour toi d'avoir fait ce choix-là. On dirait que c'est naturel en toi. Est-ce que, lorsque c'est venu le moment de choisir, est-ce que c'était de façon naturelle que tu as choisi les arts ou tu t'es questionné par rapport à d'autres professions que tu aurais pu faire aussi?
Jamais. Toute petite, je me suis dit, je veux faire des arts visuels et de l'écriture. Vraiment toute petite.
Ah, vraiment.
Puis j'en ai fait toute petite aussi. Là. J'écrivais des poèmes ou je faisais de la petite peinture. Enfin, donc, j'étais comme mindée là-dedans. Là,
oui.
On peut dire, j'étais vraiment orientée d'une manière très précise. Je me suis dit, bah, tiens, et c'est pour ça que dès le DEC, je savais que faire seulement les arts visuels, il me manquerait un volet important. Donc, je me suis dit, même si à l'époque, bon, j'ai fini par faire 3 ans de cégep, là, si on peut dire. Mais même à l'époque, c'était pas coutumier, là. Mm-hmm. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce parcours-là parce que ça m'a permis de me rassurer sur les 2 éléments de création qui m'intéressaient.
Oui. Fait que t'es vraiment un bel exemple pour montrer qu'on peut faire plus qu'une seule chose.
Tout à fait. On
vraiment.
Peut enseigner, on peut,
oui.
On peut faire beaucoup de choses. Puis l'enseignement, c'est multiple. Hein. Il faut être pédagogue, il faut justement être capable d'avoir une psychologie, une certaine psychologie. Donc, il y a vraiment plusieurs volets à développer. C'est ce qui fait que la profession d'enseignant est si riche en soi.
Mmh.
Donc, je trouve que c'est une belle profession, tout comme celle de l'artiste, qu'elle soit en littérature, en théâtre, en danse, peu importe. C'est quelque chose qui permet d'aller chercher l'expression pure de soi-même.
Mmh.
Et les étudiants qui font comme une parenthèse au cégep, c'est-à-dire tous les étudiants qui vont en art visuel ne vont pas aller nécessairement aux Beaux-Arts ou vont aller à l'université en art visuel.
C'est vrai.
Mais, par contre, ce qu'ils réussissent à faire, c'est d'avoir une parenthèse singulière qui leur permet d'avoir une quête identitaire qu'ils n'auront plus jamais le restant de leur vie, mais qui va leur permettre d'y revenir à des moments de loisirs, à tout sorte d'autres moments.
Oui.
Et donc, je pense que c'est une richesse très, très grande que de pouvoir faire ce DEC en art. Donc,
oui.
Il y en a qui font le double DEC. Là, c'est plus exigeant, évidemment.
Mmh.
Mais il y en a qui font le simple DEC et qui vont aller tout simplement finir avocat, finir architecte.
Oui.
Mais cette parenthèse a quelque chose de fabuleux qui est donné en plus à un âge où on a cette quête identitaire. Et donc, je pense que c'est vraiment une belle parenthèse qu'on peut s'offrir, que le Québec offre en fin de compte, parce que le cégep, il n'existe nulle part ailleurs
tout
qu'au Québec.
Oui.
Donc, c'est vraiment une chance où l'étudiant peut aller dans des avenues complètement différentes qui ne seront pas celles de sa profession finale. Et ça lui permet de découvrir culturellement des éléments qui sont forts en lui, mais qu'il n'oserait peut-être pas exprimer.
Exactement. J'aime beaucoup ce que tu dis, Joël. Dans mon bureau, j'observe beaucoup des jeunes qui sont souvent pressés de choisir, qui se mettent des fois parfois de la pression eux-mêmes, ou la pression peut venir des parents aussi, mais cette pression de trouver rapidement qu'est-ce qu'on veut faire. Mais ce que j'entends de ton témoignage, c'est de profiter, en fait, de cette période du cégep pour apprendre à se connaître, pour vivre des expériences, pour vivre des projets. C'est ce que j'entends dans ton discours beaucoup, hein?
Oui, parce que je pense que la culture est prédominante sur le savoir, c'est-à-dire avoir une vision globale et pas être des spécialistes. Je pense qu'être spécialiste, c'est manquer tout un volet de la vie qui est tellement important. Je pense que être multiple dans la manière de regarder la vie est un très grand enrichissement et permet de ne pas être un spécialiste obtus avec des visions très, très limitées, des visières qui nous empêchent de nous développer même dans cette spécialisation. Fait que je pense que pouvoir avoir un volet culturel très ouvert permet d'avoir une spécialisation qui va être plus ouverte au lieu d'être plutôt obtus. Moi, je crois que c'est tout gagnant, ça.
Ah, j'adore, j'adore. Lorsque on choisit de devenir artiste, comme toi, tu es une spécialiste de la sculpture, on appelle l'art cinétique, c'est comme tu disais tout à l'heure, l'art en mouvement. Comment ça se passe dans la vraie vie pour quelqu'un qui connaît pas ça? Est-ce que tu dis, par exemple, tu vas exposer au Musée des Beaux-Arts ou une autre œuvre publique? Donc, est-ce que la demande vient de ces personnes-là? Tu vas nous faire une œuvre, Joël, pour exposer devant notre musée ou ça vient plutôt de toi et ensuite tu vas aller vendre tes œuvres. Comment ça fonctionne? Explique-nous.
Être artiste, c'est être multitâche. Donc, c'est sûr que avant qu'on vienne nous chercher, il faut avoir pédalé longtemps sous l'eau.
Oh oui!
Ça, c'est normal. Donc, il faut d'une part faire la promotion. C'est-à-dire, la première chose, il faut avoir un cursus. Donc, il faut avoir des œuvres qui ont une personnalité, une signature. Donc, oui. Il faut avoir fait un travail de recherche, s'être impliqué personnellement et d'avoir des œuvres. Donc, il faut avoir, comme dans mon cas, il faut que j'ai des sculptures. Et évidemment, le but d'avoir des sculptures, c'est après ça, c'est de les montrer. Donc, il s'agit de faire des demandes dans différents lieux d'exposition, d'envoyer des dossiers, donc selon les différentes dates butoirs et tout ça. Donc, on a tout ce côté promotionnel qui est à faire. Mm-hmm. À partir de ça, l'œuvre est visible. Donc, une fois que l'œuvre est exposée, il faut essayer d'attirer soit les critiques d'art, soit les historiens d'art, soit les directeurs de galeries pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une continuation par rapport à l'œuvre d'art. Et puis, pour l'intégration des arts à l'architecture, le Québec a fait quelque chose d'exceptionnel. Et puis, ce sont les libéraux qui ont fait ça en 1989. Oui. Ils ont créé donc une loi qui oblige tous les buildings gouvernementaux, soit de rénovation, soit de construction, d'avoir 1% du budget global, seulement de construction. Donc, on parle seulement du squelette de l'édifice et non pas de, par exemple, dans un hôpital où tous les instruments coûtent 3 fois le prix de l'édifice. Donc, c'est vraiment 1% de la structure de l'édifice. Et ça a permis, d'une part, de faire que le Québec a une multitude d'œuvres dans l'espace public, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc, ça permet de démocratiser l'art, parce que tout un chacun peut voir des œuvres d'art dans des lieux publics, que ce soit les lieux de différents gouvernementaux. Et pour ce volet-là, il y a l'intégration des arts à l'architecture, où ça peut être les différentes villes qui ont leur propre bureau. Et là, on envoie une série de photos qui permettent de montrer, par exemple, le volet qu'on a en sculpture installation ou en mural 2D. Et si on est sélectionné, on a à ce moment-là toujours notre dossier qui passe à chaque fois qu'il y a un concours qui sort. Et là, il y a un jury de... Ils sont toujours 7 personnes qui vont faire une présélection. Une fois que la présélection est faite et qu'on a la chance d'être sélectionné, il faut à ce moment-là faire une présentation de maquette et des budgets. Donc, on a au moins 3 ou 4 mois pour pouvoir faire ce travail-là. Et là, on repasse en jury et ils choisissent une de ces 3 ou 4 maquettes. Donc, okay. C'est exigeant. On est,
oui,
c'est,
je vois, vraiment.
C'est un peu le parcours du combattant. On y va, il faut y aller.
Absolument, oui. Absolument.
Mais une fois qu'on l'a, c'est assez extraordinaire parce que ça nous permet d'avoir une œuvre pérenne, une œuvre qui va être là pour tout le temps de l'édifice. Et donc, c'est, oui. À ce niveau-là, c'est vraiment intéressant.
Et c'est comme ça que tu as bâti ta carrière aussi.
Exact,
en faisant connaître tes œuvres, en ayant plusieurs expositions.
Oui. Oui, mais c'est beaucoup d'investissement. Oui. Et c'est sûr que le fait d'avoir une galerie commerciale, une galerie qui supporte l'artiste, c'est un gros plus. Donc, moi, je n'ai pas fait ce parcours-là, puis je le regrette un petit peu. C'est-à-dire que j'aurais dû, dès le début, essayer d'avoir une galerie commerciale. Mais comme j'avais des intégrations de l'art à l'architecture, je n'étais pas capable de faire les... Ça faisait un peu trop en même temps. Donc, j'ai laissé tomber ce volet. Mais c'est dommage parce que la galerie est une courroie de transmission. Donc, elle nous permet permet d'aller beaucoup plus loin et donc de moins travailler nous-mêmes au niveau de la promotion. Donc, je pense que c'est, d'une part, se faire une série d'œuvres d'art intéressantes que l'on puisse voir, avoir des expositions, chercher une galerie, là, si possible, qui puisse nous supporter, avoir, si possible, un historien d'art qui s'intéresse à notre travail pour écrire dessus et en parler, et déposer un dossier dans les intégrations d'art à l'architecture. Puis ça fait vraiment une carrière assez complète.
Oui, je comprends. Puis il y a comme des éléments de marketing, d'administration dans tout ça aussi.
Tout à fait, oui, oui.
Et c'est toi qui fais tout ce volet-là aussi.
Ouais, en général, l'artiste fait beaucoup, beaucoup.
Fait
dans
beaucoup.
Ce... Ouais, c'est, wow. C'est dans ce sens-là que c'est exigeant, là. C'est dans ce sens-là que c'est pas seulement produire l'œuvre. Bon, il y a des artistes qui sont au top, là, si on peut dire. Ben, eux, ils ont peut-être plus de sollicitations de l'extérieur. Donc, parce que comme c'est des grands noms, le fait de s'associer à un grand nom fait en sorte que le directeur de la galerie ou le directeur du musée, ça le grandit également. Donc, tu sais, il y a comme ce vase communicant qui se fait. Mais autrement, les artistes, à 99 % ont beaucoup, beaucoup de travail à faire pour pouvoir justement faire une carrière, là, une carrière d'artiste.
Vraiment. Puis au niveau de l'écriture, Joëlle, j'ai vu que tu étais cofondatrice aussi d'une revue qui s'appelle Espace.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, on a fondé une revue, la revue Espace Art Actuel, qui s'appelle actuellement comme ça. Et donc, moi, j'ai été impliquée pendant une quinzaine d'années à l'intérieur de cette revue-là. Donc, on était trois. Il y avait Serge Fizette, qui était le directeur de la revue et qui a fait le gros du travail, les demandes de subventions et tout ça. Et Édouard Lachapelle, donc et Joël Morosoli, donc on était les trois, si on peut dire, fondateurs. Et ce qui a été fascinant là-dedans, c'est que là, c'est d'aller voir les expositions, de comprendre les démarches des différents exposants, des différents artistes qui sont là. Et après ça, bon, ben, il y a des critiques d'art, des historiens d'art qui nous envoient des articles, on les sélectionne, on les publie, les images qui sont... Donc, c'est un autre volet aussi, hein, qui est vraiment très, très... qui est un volet qui aide la communauté, parce que le fait de montrer des œuvres d'art, de mettre en scène des artistes, ben là, ça demande de l'implication dans le milieu et puis ça permet de rejaillir sur l'ensemble des artistes. Donc, c'est aussi un volet qui est intéressant
c'est
à développer.
C'est comme un engagement aussi
oui.
social. Hein?
Tout à fait, oui. Oui. Oui, oui. Donc, Serge Fizette a pris sa retraite il y a quelques années, puis maintenant, c'est André Paré qui a pris la relève. Donc, la revue perdure, donc ça, c'est
perdu.
Bien, parce qu'il y a beaucoup de revues qui s'essoufflent et qui meurent faute de subventions, puis disons qu'il faut s'accrocher aussi, hein, je veux dire. Pour réussir, il faut vouloir, hein, tout
faut
le temps.
Il faut vouloir,
et c'est
faut
ça.
Travailler.
Exact. Ouais.
Absolument. Il faut du talent aussi.
Mais c'est satisfaisant. Oui. Moi, je dirais que l'opiniâtreté, la persévérance passe avant le talent.
Oui, c'est vrai.
C'est comme surprenant,
oui.
Parce qu'on ne croit pas ça, parce que souvent, les gens qui ont du talent, c'est facile. Puis aller dans la difficulté, ben, ça ne leur tente pas. Ils disent, bon, les arts, c'est trop compliqué, on va aller ailleurs. Mais ceux qui sont persévérants et qui ont quand même quelque chose à dire, là, c'est sûr, là, il faut avoir quelque chose à dire. Je crois que c'est ceux qui ont peut-être le plus de chances de se rendre le plus loin, parce que c'est comme juste un peu le parcours du combattant. Tu sais, il faut y aller, il faut accepter les échecs, il faut accepter et prendre une leçon de cet échec au lieu de se laisser anéantir par l'échec. Il faut essayer de justement l'analyser, comprendre les raisons et puis essayer de le dépasser puis d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que je pense qu'il faut envisager cette carrière-là.
Ah oui, tout à fait. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as connu de la résistance de la part de tes parents lorsque tu as voulu commencer et dire « je vais étudier en art, je vais faire ma carrière là-dedans »
Non, heureusement, pas du tout. Le volet culturel était présent dans ma famille, donc il n'y a pas eu de problème par rapport à ça du tout. Je pense qu'il n'y a même pas eu un questionnement par rapport à ça. Mmh. Donc pour ça, j'ai été chanceuse parce que j'ai été comme...
Des parents très ouverts
oui,
à la culture
tout à
et
fait.
Respectueux de tes choix.
Tout à fait, oui,
ah,
exactement.
C'est super. Vraiment, tu es un beau modèle, Joël.
Ben, je te remercie.
Est-ce que, pour terminer,
oui.
Est-ce que tu aimerais dire quelque chose, un conseil, quoi que ce soit, à nos étudiants qui étudient présentement en art, qui ont 17, 18, 19, qui se posent beaucoup de questions? questions? Est-ce qu'ils vont choisir les arts? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Ben moi, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie d'abord. C'est sûr qu'il faut penser au côté matériel. Là. C'est-à-dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, là, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut aller vers des secteurs dans lesquels on va avoir du plaisir à être. C'est-à-dire être dans un travail de 9 à 5 qu'on déteste tout le temps, ben, ça fait une vie pitoyable. Et je crois que quand on est en art, ben, il y a suffisamment d'ouverture dans toutes sortes de secteurs différents, que ce soit la communication, que ce soit le design, que ce soit le numérique, la bande dessinée. Enfin,
large.
C'est très, très large. Oui. Donc, d'un autre côté, prenons le temps. Moi, je dirais, prenons le temps de voir ce qui nous plaît vraiment. Essayons. Et puis, même si on rate quelque chose, c'est pas grave. On reprend la prochaine fois. C'est pas plus grave que ça. Donc, il faut rester souple puis le plus authentique par rapport à soi-même.
Ah, c'est super. Merci, Joël.
Ben, merci, Sylvie, à toi. Merci beaucoup.
J'ai beaucoup apprécié ton entrevue. Je suis certaine que les étudiants vont avoir beaucoup à apprendre de ton témoignage aujourd'hui. Merci encore.
Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir.